Chacun le sait, il y a une érosion multiple du langage, non seulement dans les manières de dire ordinaire, mais aussi dans la précarité des échanges, une certaine vitesse, bref, toute une usure. Tout à coup me vient en rappel le vers bien connu de Mallarmé, donner un sens plus pur aux mots de la tribu. Ça veut dire que la poésie, et aussi d'ailleurs la réflexion poétique, n'est pas une autre langue qui fera appel à une autre linguistique. Mais si par mot de la tribu on entend, sans aucun mépris, bien entendu, l'usage ordinaire du langage, les échanges, ce qui est dans ce vers, ce qui s'appelle le plus, donner un sens plus pur, c'est pas non plus une purification, une épuration, c'est au fond un sursaut. Je me rappelle aussi un mot de Valéry qui disait le poème est à la prose comme la danse à la marche. Mais bien entendu, c'est le même corps qui marche et qui danse. Donc ce supplément qui n'est pas un supplément d'âme, mais qui est au fond une acuité, une vigilance, un effort supplémentaire dans la langue et dans la langue ordinaire, je continue à croire que c'est une des fonctions importantes du poète et que c'est une des manières de répondre à la question « à quoi bon les poètes ?»
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Le poème est à la prose ce que la danse est à la marche. Cette lumineuse citation de Valéry que nous rappelle Michel de Guy, lui-même philosophe et poète, on la croirait énoncée spécialement pour Barbara Cassin. Neuvième femme à entrer à l'Académie française, la philosophe et philologue, ancienne élève de Michel de Guy, vit avec la poésie au cœur depuis toujours, mais aussi avec la peinture qu'elle a apprise en regardant peindre sa mère, qui pour la faire tenir tranquille lors de ses séances de pause lui racontait des histoires sans fin. Au commencement donc étaient les mots, la beauté et la certitude d'être aimée, un terreau fertile pour celle qui s'est toujours su particulièrement douée pour le bonheur. Barbara Cassin a publié à la rentrée dernière un livre qu'il est bon de lire en ces temps de désespérance existentielle. Le bonheur, sa dent douce à la mort, paru chez Fayard, est sous-titré une autobiographie philosophique. Et certes, Madame l'académicienne nous y raconte maints souvenirs et anecdotes de sa vie. Mais tous y font sens et nous amènent à réfléchir avec elle sur ce qui fait le prix et l'intérêt d'une vie de mortel, voire d'immortel dans son cas. Car, et c'est bien le sens du titre emprunté à Rimbaud qu'elle a choisi, il y a une connexion intime entre la conscience de notre temps compté et notre appétence pour le bonheur. L'autobiographie de Barbara Cassin nous fait entrevoir des choses que nous ne savions pas encore de nous. N'est-ce pas cela aussi le rôle exact de la philosophie ? Bonsoir Barbara Cassin.
Bonsoir.
Vous écrivez que vous êtes douée pour le bonheur. Et effectivement, tout au long de ce livre, c'est ce qu'on découvre, parce que, comme pour tout le monde, votre vie a été parsemée de chagrins, de deuils, d'épreuves. Mais à chaque fois, il y a ce goût pour la vie qui est dû, dites-vous, au fait que vous saviez depuis toujours être mortel. C'est inséparable ?
Oui, sans doute. Mais ça, c'est profondément grec. L'idée qu'un mortel, en grec d'ailleurs il y a un mot pour le dire qui est sublime, c'est phos. C'est comme ça qu'on traduit mortel, traduit phos dans, par exemple dans l'Iliade et l'Odyssée, chez Homère. Et ça veut dire à la fois, à l'accent près, la lumière. Les accents, ça a été codifié très tardivement. Et donc, voilà, les mortels, c'est aussi les lumineux. Ceux qui aiment la lumière, quand on va en enfer chez les Grecs, ben c'est juste qu'il n'y a plus de lumière. Et par ailleurs, l'étymologie renvoie aussi à c'est-à-dire ce que je fais quand je parle, le son que j'émets, parler. Et donc la parole, la lumière, la mortalité sont liées. Et je ne crois pas qu'on puisse être heureux sans lumière, sans parole. Et sans mort. Je crois que les dieux sont pas heureux. Ils arrêtent pas de vouloir imiter les mortels de manière un peu compulsive et même hystérique. Et en fait, bah, ils sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire des dieux. Voilà, c'est pas très drôle.
Mais vous dites aussi que au commencement de votre vie, il y a la certitude d'être aimé. C'est quelque chose d'essentiel qui vous a ancré dans l'existence. Cette certitude d'être aimé par votre père, par votre mère, d'être regardé, notamment par votre mère qui vous peignait. Et d'ailleurs, sur la page de garde de votre livre, il y a la reproduction d'un des nombreux petits tableaux qu'elle vous a consacrés. Donc il y a ce regard qui fait vivre. Et il y a les mots, les histoires qu'elle vous racontait. Comme si justement votre destin de philosophe, de philologue, était tracé par cela, par le regard et les mots.
Oui, vous avez dit tout à l'heure que j'ai dit quelque part que j'étais douée pour le bonheur, j'en sais rien. Enfin, je veux dire, je me souviens pas d'avoir dit ça. En revanche, c'est vrai que une sensation qui ne m'a jamais quittée, c'est que tous les matins quand je me réveille, je suis heureuse de me réveiller. Je suis heureuse de voir la lumière, de voir le jour. C'est un bonheur, ça. Et peut-être c'est ça que j'ai dû vouloir dire quand j'ai dit que j'étais douée pour le bonheur. Je trouve que c'est de la chance de se réveiller en trouvant que être au monde, c'est superbe. C'est super, même tout simplement.
Alors, il y a quelque chose dans votre parcours, Barbara Cassin, qui est la rencontre avec les Grecs. Et pour en parler avec vous ce soir, j'ai voulu vous faire entendre une voix qui m'est très chère. Elle date de 2001, c'est-à-dire très peu de temps avant sa mort. C'est celle, vous allez la reconnaître tout de suite. Il nous parlait d'Ulysse.
À la fin de la journée, Ulysse et Pénélope se retrouvent dans le grand séma, dans le lit nuptial. Ils parlent, ils se racontent, parce que, comme le dit Ulysse, il y a cet accord intime de deux êtres, un homme et une femme. Et que par conséquent, quand ils se retrouvent, il y a quelque chose qui est resté, qui est demeuré et que souligne le récit. Maintenant qu'il se voit dans les yeux de Pénélope, un homme grec ne se regarde pas dans un miroir, mais à travers les yeux de Pénélope, il reconquiert entièrement son identité, une partie de sa jeunesse. Et il n'y a pas, au terme du récit, le sentiment que le temps est perdu. Il est retrouvé, quand ils sont tous les deux au Plumard. Le temps est retrouvé, mais il est retrouvé aussi pour nous, lecteurs, qui comprenons que ce problème, la vie, la mort, trouvez-nous là-dedans, essayons de comprendre, et nous n'y arriverons pas. Alors, on m'a dit qu'il y avait des jeunes, là, qui ne voient rien, ben, j'ai pas les bonnes lunettes. S'il y a des jeunes, qu'il faille donner une conclusion à cet interminable laïus où j'ai pas dit le quart de ce que j'aurais voulu. Je me rappellerai que j'ai été jeune, moi aussi, ça compte pas beaucoup. Et je vous dirai, hé les gars, hé les filles, vive l'Odyssée!
C'était en 2001, quelques mois avant sa mort, la voix de Jean-Pierre Vernon, et qui a accompagné l'humeur vagabonde pendant tellement longtemps. Et on l'entend ici parler d'Ulysse, justement, d'une manière qui doit sûrement vous parler à vous, Barbara Cassin, parce que Ulysse, c'est ça, c'est le goût de la vie, de la rencontre avec les autres.
Oui.
Et on est sûr que Ulysse se réveillait aussi tous les matins en se disant « Quel bonheur d'être en vie, qu'est-ce que je vais découvrir aujourd'hui ?»
Mais qu'est-ce qui va m'arriver dessus, les deux. Oui. Mais cette fin de l'Odyssée, elle est absolument sublime, pour beaucoup de raisons, et dans le rapport homme-femme. D'abord, Vernon a tout à fait raison de dire que le temps, on ne sait pas très bien comment ça se fabrique et comment c'est compté. Et effectivement, quand enfin ils se reconnaissent, l'histoire de la reconnaissance est une chose très compliquée, et j'allais dire ce salaud d'Ulysse, quand il est revenu, il a fait semblant de ne pas être lui, alors que Pénélope était sûre que c'était lui. Il l'a laissé seul dans son lit, avant d'accepter d'être reconnu. Et ensuite, il s'étonne qu'elle ne veuille pas le reconnaître. Bon, quand enfin, ils se reconnaissent, enfin, tous les deux, que Pénélope accepte de le reconnaître. Et vous savez pourquoi ? Là, je crois qu'il faut vraiment le dire. Le séméion, ce qui fait signe de leur reconnaissance, c'est que Ulysse et Pénélope sont les seuls à savoir comment est fabriqué leur lit.
En olivier et ancré dans le sol.
Ulysse a laissé l'olivier et il a creusé l'olivier enraciné et il a creusé son lit. Donc le lit conjugal, c'est l'enracinement. Bon, avec tout ce que ça peut avoir de positif et de terrifiant. Bon, mais c'est leur secret partagé. Moyennant quoi, quand Ulysse dit à Pénélope, « Ah, tu ne veux pas me reconnaître, chienne, terrible, etc., cœur de fer !» Elle lui répond, « Mais si, je vois bien que c'est toi. Servante, va donc disposer notre lit. » Et à ce moment-là, Ulysse se dresse en disant, « Quoi ? Qui donc a bougé notre lit ?» Alors elle dit, « Ah, c'est toi. » Et là, il passe un temps de nuit, avec les chevaux du soleil arrêtés. On ne sait pas combien de temps dure cette nuit de retrouvailles. Elle dure l'éternité. Ça, c'est ce à quoi Vernon fait allusion en disant que bon, on ne sait pas combien de temps. Tout le temps est retrouvé. Oui, tout le temps est là dans cette nuit qui n'a pas de borne. Bon, mais ce qu'on ne sait pas après, c'est qu'après cette nuit, et là Vernon n'en parle pas. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il en ait tellement parlé. Peu de gens en ont parlé. Après cette nuit, Ulysse repart. Et il repart tout de suite. Parce que lorsqu'il a été aux enfers, Tirésias lui a ordonné pour que la vengeance de Poséidon, peu importe toute cette histoire, s'arrête. Il repart avec une rame sur l'épaule jusqu'à ce qu'il rencontre quelqu'un qui lui dise « Étranger, quelle est cette pelle à grains sur ta brillante épaule ?» C'est-à-dire quelqu'un qui ne sache même pas ce que c'est que l'eau, la mer et la navigation. Et alors, Ulysse, suffisamment loin de l'empire de Poséidon, plantera la rame en terre et fera une hécatombe, un sacrifice énorme à Poséidon, et pourra rentrer chez lui, vivre entre les siens le reste de son âge. Bon, ça c'est magnifique. Autrement dit, Ulysse n'en a pas fini quand il a retrouvé Pénélope. Il doit repartir jusqu'à être vraiment quelqu'un d'inconnu, un autre. Et alors, il reviendra pour regagner son identité pleine et complète. Ça, je crois que aucun roman contemporain n'est aussi violent quant à l'intelligence de l'identité.
Être un autre, vous venez de le dire, Barbara Cassin, jusqu'à ce qu'Ulysse puisse rencontrer un autre, être un autre. Finalement, on sent bien pourquoi les Grecs vous ont accompagné toute votre vie, parce que ce goût de l'autre, il vous a irrigué aussi, et dans tous vos choix, ça a été fait pour le choix de la langue, le choix des mots, aller comprendre ce qu'on ne comprend pas à l'origine.
Le choix des hommes aussi.
Voilà, la philosophie grecque, et finalement, c'est qui vous a tenu debout à travers le temps.
C'est ce qui m'a, étonnée. Ce qui m'a d'une certaine manière rendu plus étrange à moi-même et rendu le monde plus étrange à lui-même. Donc ce qui m'a permis d'avoir envie d'autres. Oui, ce qui m'a donné l'envie d'autres.
Alors on va écouter maintenant la voix de votre ami Alain Badiou qui saisit pendant cette émission dont vous vous souvenez sûrement puisqu'elle a eu lieu en 2019, c'était le grand atelier de Vincent Josse, et Alain Badiou parlait de vous deux en tant que philosophe, semblables et autres.
On peut imaginer que Platon éprouvait un certain plaisir à discuter avec les sophistes quand on voit la part qu'il leur a accordée dans son œuvre. Il n'existerait pas sans le sophiste, à certains égards. Alors je pourrais dire que je n'existerais pas sans Barbara, au sens précisément où la discussion spéculative avec elle est une partie constituante de nos rapports réciproques à la langue. Alors c'est pour ça que moi, je suis partagé dans mon rapport à la langue entre deux paradigmes. La poésie comme le témoignage le plus profond de la multiplicité dont la langue est capable lorsqu'elle est saisie dans sa profondeur la plus considérable, dans sa ressource la plus vive, ce qui est même la fonction de la poésie, qui fouille la langue maternelle pour lui faire dire ce qu'elle ne semblait pas pouvoir dire. Et d'un côté, je suis admiratif essentiellement de cela, mais de l'autre, et ça, c'est essentiel pour moi, il y a les mathématiques qui travaillent exactement au rebours de la poésie. C'est-à-dire qu'il ne cesse de poncer la langue, de la raviner, de la dessécher, pour qu'elle finisse par tout de même fonctionner de manière univoque. Et d'une certaine manière, ça me donne un rapport constant et enrichissant avec Barbara, parce que Barbara est quelqu'un qui lutte constamment en tentant de démontrer que le ponçage de la langue, la figure de l'université, n'est jamais qu'une des figures de hantise et de capacité de la langue, et que d'une certaine manière, elle opère un oubli de ce que la langue est dans sa richesse créatrice véritable.
Alain Badiou dit « Je suis philosophe et mathématicien ». Vous dites toujours « Je ne suis pas philosophe, je suis philosophe et ». Oui. Alors, et plein de choses, et philologue, et poète, et peintre, et amoureuse de la vie. La philosophie ne peut pas être une étiquette fermée. Pour vous, c'est la philosophie vous ouvre à beaucoup d'autres choses.
Oui, d'ailleurs, la collection que nous avons faite ensemble, que nous faisons encore ensemble chez Fayard, s'appelle Ouverture, avec un S. Oui, bon, c'était une manière de dire que chacun de nous se tient sur les bords. Enfin, la différence, c'est que Badiou se tient aussi au centre. Quand il dit mathématiques, ponçage et, d'autre part, poésie, il se tient au centre et il y a un d'autre part. Et il essaye d'articuler ce d'une part et d'autre part. Moi, je n'ai pas de d'une part et d'autre part. Je suis dans le « et » tout le temps.
Et vous dites aussi que dans la philosophie, vous êtes une sophiste. Alors, on ne sait pas toujours ce que c'est qu'une sophiste. Une sophiste qui tripote le langage. Je trouve que c'est une définition absolument délicieuse. Et vous dites aussi que les sophistes, aujourd'hui, ce sont les psychanalystes. Alors, votre livre ressemble à une psychothérapie philosophique aussi. Est-ce qu'il y a un rapprochement comme ça entre, pour vous, entre ces domaines-là ?
Oui, c'est-à-dire que c'est des domaines de liberté de la langue. Et ce sont deux domaines qui tirent parti, qui s'installent justement dans la liberté de la langue. La psychanalyse, c'est dites ce que vous voulez, et puis on en fera quelque chose. Et les sophistes, c'est aussi quelque chose de cet ordre. D'ailleurs, Lacan dit que le sophiste d'aujourd'hui, c'est le psychanalyste. J'ai écrit un livre sur Lacan sophiste. Je ne sais plus comment je l'ai appelé, mais enfin bon, en tout cas, c'est ça, ce dont il s'agit, et Lacan le dit lui-même. Donc, ça m'intéresse beaucoup de voir comment Freud a lutté avec et contre la sophistique, comment dans le mot d'esprit, il explique les choses, et comment, au fond, tout ça tient à l'intérêt de ce qu'on dit quand on le dit, et même le son que ça a, le signifiant, l'équivoque. Ce sont des parties absolument géniales de toute langue. Et je pense que ce sont les parties les plus singulières, c'est-à-dire les cartes d'identité des langues, c'est leurs équivoques. D'où ce que j'ai essayé de faire avec un dictionnaire des intraduisibles, y compris en philosophie, c'est-à-dire là où Badiou installe les mathématiques.
Alors l'équivoque, c'est quelque chose aussi de très important dans votre vie, Barbara Cassin. Les mots disent quelque chose qui n'a pas toujours à voir avec la vérité. Vous avez parlé de Jacques Lacan, on va l'écouter en 1974, parler justement, très brièvement, de la vérité et du mensonge.
Je dis toujours la vérité. Pas toute. Parce que toute la dire, on n'y arrive pas. La dire toute, c'est impossible matériellement, sans les mots qui y manquent. C'est même par cet impossible que la vérité touche au réel.
Barbara Cassin, c'est toujours exaltant d'écouter Lacan. Et en l'occurrence, quand il dit les mots manquent pour dire la vérité, au fond, vous écrivez un peu la même chose. Vous dites, j'ai beaucoup menti, j'ai jamais trompé.
Oui. C'est vrai, mais là je subjectivise, c'est-à-dire que au fond c'est dans le rapport aux gens que j'ai aimés, que j'aime, mes parents, des hommes, mes enfants. Au fond j'ai beaucoup menti parce que c'est vraiment plus facile pour tout le monde et plus agréable très souvent. Mais j'ai pas trompé, c'est-à-dire que j'ai toujours laissé comprendre quand est-ce qu'il y avait de la vérité, accrochée. Un roc de vérité. Bon, pourtant, je biffe aussitôt ce mot. Lacan a une autre phrase. Bon, pas toute, vous voyez, le rapport entre la vérité et la femme. Bon, moi, la vérité, je parle. Bon, pas toute. Ok. La femme non plus n'est pas toute.
Là, il y a tout un pan de la psychanalyse lacanienne qui est en train de se dévoiler. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus directement dans ma pratique de philosophe, c'est quand Lacan parle de vérité. Vérité, avec un petit E qui ressemble à un A, la vérité du vrai. Autrement dit, quand il pense que il n'y a pas la vérité tout entière, et là vous retrouvez ce qu'il vient de dire, il n'y a pas la vérité avec un grand V. Et c'est au fond là ce qui me fait douter du fait que je suis vraiment philosophe. C'est que je pense qu'il y a très peu de vrais philosophes qui ne croient pas en la vérité avec un grand V. Et alors moi, c'est pas du tout mon genre, ça. And now, the end is near. And so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more. Much more than this, I did it my way. Yes, regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through. Without exemption, I planned each charted course, each careful footstep along the byway. Yeah, oh, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew. My fill, my share of losing. Now, as tears subside, find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a sly way. No, not me, I did it my way. What is a man, what has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels. Not the world.
Vagabonde sur France Inter.
La liberté n'est pas ce qu'on nous montre sous ce nom. Car l'imagination, ni sotte, ni vile, n'a, la nuit tombée, qu'une parodie de fête devant elle, La liberté n'est pas de lui jeter n'importe quoi pour tout infecter. La liberté protège le silence, la parole et l'amour. Assombrie, elle les ravive. Elle ne les macule pas. Et la révolte la ressuscite à l'aurore, si longue soit celle-ci à s'accuser. La liberté, c'est de dire la vérité avec des précautions terribles sur la route où tout se trouve.
C'est incroyable les échos qu'il y a dans les archives que l'on passe aujourd'hui avec vos propres paroles. Barbara Cassin, là c'était la voix évidemment reconnaissable de René Char. René Char est là parce qu'en 1969, vous avez participé au séminaire du Thor qu'il organisait près de chez lui, à Lille-sur-la-Sorgue, avec Martin Heidegger. Et là, il s'est quand même passé quelque chose qui vous a marqué, vous le racontez dans votre livre Le Bonheur, sa dent douce à la mort. Un habitant de l'Île-sur-la-Sorgue vous voit et voit votre nom, Cassin, et il vous agresse. Enfin, il dit quelque chose de terrible. Il dit comment, avec votre nom, donc juif, un nom juif, comment pouvez-vous participer à une rencontre avec ce nazi de Heidegger ? Et là, vous dites en fait que vous y avez découvert votre judéité, parce que chez vous, ça n'avait jamais été une question approfondie.
Oui, c'est-à-dire que peut-être on peut appeler ça des juifs assimilés, on était vraiment assimilés, ce qui affleurait quand même, c'est la guerre, puisque les parents me racontaient la guerre, ma mère me racontait la guerre quand elle me peignait, vous en parliez au début de cette émission, et elle me racontait comment ils s'étaient enfuis en zone libre, et comment ensuite...
Et comment elle avait menti pour échapper aux Allemands, c'est une séquence formidable.
Oui, quand les Allemands sont venus chercher mon père, on toquait à la porte, alors qu'elle avait tout fait pour aller à la messe, etc., être BCBG comme il fallait dans ce petit village. Les Allemands lui ont dit « Madame, vous allez à la messe, on sait, mais votre mari, il est juif ». Et alors, elle, qui était aussi juive que lui, s'est drapée dans sa dignité, dans sa beauté, et elle a dit « Moi, épouser un juif, jamais !» Et les Allemands sont partis. Et évidemment, mes parents se sont enfuis aussitôt. Mais tout ça pour dire que, à la fois, je savais, nous savions que nous étions juifs. Et comment ? Et beaucoup de la famille de mon père, comme de la famille de ma mère, sont morts. Et puis René Cassin était quand même prix Nobel de la paix et compagnon de De Gaulle. Et mon père a essayé de le rejoindre pendant la guerre, sans y arriver. Bon, bref, tout ça... On le sait, mais on le sait de savoir. Mais on ne le savait pas, moi je ne le savais pas, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et je crois que mes parents nous ont plutôt préservés. Mais j'ai eu un frère et une sœur, ma sœur a, je crois, 15 ans de plus que moi, et mon frère, qui est mort il y a très peu de temps, avait 7 ans de plus que moi. Donc moi j'étais une petite dernière, produit de du fait qu'ils étaient encore en vie. C'est ça au fond mon sentiment d'amour, c'est simplement que je suis la preuve qu'ils étaient encore vivants après la guerre. Donc je ne peux pas dire que je ne savais pas que j'étais juive, mais peut-être je ne savais pas ce que ça voulait dire qu'être juif. Et je ne le sais toujours pas d'ailleurs. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que quand on n'est pas croyant, quand on ne parle pas ni l'hébreu, quand on trouve qu'Israël n'est pas un pays très ragoûtant, toutes ces choses-là, au fond, ne favorisent pas l'identité juive. Et comme dit Hannah Arendt, je ne me suis jamais sentie juive, ni d'ailleurs allemande, sauf quand on m'a dit sale juive. Ben moi c'était pareil, au fond j'ai découvert que j'étais juive quand on m'a dit de manière inversée sale juive, puisque tu es à la table, tu prends ton petit déjeuner à la table d'un nazi.
Et qu'est-ce que vous pensez justement de la phrase de votre ami, le philosophe Jean-François Lyotard, qui vous dit « Toi, tu t'es occupé des Grecs pour ne pas t'occuper des Juifs ». Au fond, est-ce que c'est exact ou est-ce que c'est... qu'est-ce que ça veut dire ? C'est très surprenant de lire ça.
Oui, j'étais scandalisée quand il m'a dit ça. Et je ne l'ai pas cru du tout et j'étais même furieuse. Et puis aujourd'hui, je me demande si c'est pas un peu vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui que je ne... qu'au fond que je regrette de ne pas savoir l'hébreu, de ne pas savoir lire, de ne pas savoir l'hébreu, mais de ne pas savoir l'arabe, mais de ne pas savoir le chinois. Enfin, je regrette de ne savoir que le grec, on va dire. Le latin, l'anglais, ce que vous voudrez, les langues latines, mais peu importe. Mais d'avoir l'impression d'altérité, vraiment, d'altérité profonde, qu'avec le grec. D'altérité, c'est-à-dire aussi de fraternité, de parenté, mais d'altérité.
eh bien, parce que le latin, ça ne me fait ni chaud ni froid, l'anglais ne me fait ni chaud ni froid, même s'il y a des poèmes sublimes, même s'il y a des textes sublimes. Mais comme langue, le grec me fait quelque chose et n'arrête pas de me faire sentir ce que c'est que le français. Il faut au moins deux langues pour savoir qu'on en parle une, et on n'est pas forcé d'en savoir vraiment deux à fond, mais simplement d'en flairer. Eh bien, le grec, c'est la langue que j'ai flairée comme autre, complètement. Donc voilà, alors pour revenir à la judéité, je m'arrête vraiment à ce que disait Hannah Arendt, c'est-à-dire que je ne sais que je suis juive que quand on me dit « sale juive ».
En tout cas, cet amour pour les langues, pour les autres, pour plus d'une langue, c'est à Jacques Derrida que vous l'avez emprunté, cette formule qui est gravée sur votre épée bizarre, votre bizarre épée d'académicien.
Je suis voué à la multi... Alors, je ne vais pas dire multiculturalisme, multiculture, parce que c'est un mot impossible aujourd'hui, mais à la multi-appartenance, voilà. Je suis juif et grec. Je suis déconstructeur de la philosophie et philosophe. Je suis français et... européen et quelquefois, comment dire, j'en appelle à un cosmopolitisme au-delà de la citoyenneté. Je suis pour le français, pour la langue française, qui est la seule langue que je parle, que j'aime, et que je, la seule dans laquelle je puisse écrire, donc qui me transit, qui transit tout mon être. Mais je me méfie naturellement du gallocentrisme ou de l'enfermement nationaliste dans la langue. Je suis pour plus d'une langue, c'est une définition que j'ai donnée à la déconstruction, plus d'une langue. Je suis pour l'allemand, pour l'hébreu, pour l'italien et pour l'arabe. Et je regrette de ne pas parler toutes ces langues-là. Mais je ne veux pas renoncer, c'est ça, mon inconscient. C'est comme ça que Freud définit l'inconscient. C'est qu'il ne renonce à rien. Alors, mon inconscient ne renonce à rien. C'est-à-dire, je ne renonce pas à la philosophie. Je ne renonce pas au judaïsme, à un certain judaïsme. Je suis, comme je l'ai dit quelquefois, tout seul, le dernier des juifs, bon, à tous les sens de ce terme. Et je ne renonce pas à la philosophie, je ne renonce pas au judaïsme, je ne renonce pas à l'Europe, mais je peux dire du mal de toutes ces choses-là. C'est comme ça que je suis, je dirais pas enraciné, mais planté. Voilà. Je me plante comme quelqu'un qui aurait voulu pousser n'importe où. Poussé dans beaucoup de... un peu partout dans le monde.
Voilà. Oh là là, qu'est-ce que
c'est magnifique.
C'est magnifique, Derrida 2003, un Derrida joyeux, un Derrida clair, un Derrida que chacun peut tout d'un coup approuver. Cette multi-appartenance, au fond, c'est la définition parfaite de cette vie que vous avez menée, Barbara Cassin.
Oui, sauf que, bon, ce que dit Derrida, en fait, il barre en même temps la notion d'appartenance, c'est ça, qui est plus joli encore. C'est-à-dire que, bon, il n'arrête pas de barrer les concepts qu'il emploie. Et là, on entend comment il barre appartenance dans multi-appartenance. C'est très beau, ça. De même qu'il barre enracinement. Bon. Et Dieu sait qu'on souffre de l'appartenance enracinée depuis Heidegger, et lui aussi. Bon. Donc voilà. Oui, c'est magnifique. Ça me rend... Je ne l'avais pas entendu. Et c'est... D'abord, je... Permettez-moi de vous remercier pour tous les textes que vous avez choisis.
Il faut remercier Claire Tesser, qui à chaque fois nous trouve des archives absolument merveilleuses. Ouais.
Et ça, je ne l'avais pas entendu. C'est bien le Derrida que je connais du Collège international de philosophie, le Derrida, justement, de plus d'une langue qui fait que c'est ce que j'ai inscrit sur mon épée, de l'Académie française, justement, parce que il faut que le français soit plus d'une langue, si on veut qu'il reste le français, et qu'il reste le français en étant non seulement compatible, mais ami et interpénétré avec plus d'une langue, et en tant que tel, parfaitement français.
Mais Barbara Cassin, tout ce qu'on vient d'entendre nous rappelle... ces époques que nous avons traversées, vous comme moi, où justement on déconstruisait ses racines, ses appartenances, où le monde s'ouvrait, où on pensait qu'il y aurait davantage de goût pour l'autre, pour les autres. Et là, nous assistons, depuis pas à cause de la pandémie, depuis bien plus longtemps, à un refermement, à des frontières, à des appartenances martelées, donc à la dénonciation de ceux qui n'appartiennent pas. C'est quand même... C'est désolant, et vous gardez vous gardez de l'optimisme ?
Oui, je garde tout à fait de l'optimisme. Je vais vous dire, le goût pour l'autre, ça ne me convient que s'il n'y a pas de majuscule à autre. Voilà. Et donc, c'est tous les jours que ça se passe. Et ça peut toujours se passer tous les jours. C'est pour ça que j'ai fait avec des amis les Maisons de la Sagesse traduire. Je ne sais pas si vous avez envie qu'on en parle.
Oui,
je
voudrais bien, parce qu'il y a une initiative formidable.
Voilà. Ouais. Donc, cette idée, elle est basée sur l'importance de la traduction comme quelque chose qui est entré avec et qui suspend un peu la rapidité et cette espèce de rapidité de l'universel qui fonctionne avec l'autre avec un grand A, que je ne supporte pas. La vérité avec un grand V, l'autre avec un grand A, ça me fait vomir. Et donc, au lieu de ça, parlons des vérités, vérité, vérité, parlons des autres et voyons ce qu'on fait au cas par cas. Et avec ces Maisons de la Sagesse traduire, ben, au cas par cas, nous faisons, par exemple, des glossaires de l'administration française.
Si nécessaire.
Oui, complètement nécessaire pour nous tous. Mais là, en l'occurrence, on les fait
pour les
étrangers qui arrivent, pour ceux qui sont accueillis ou qui devraient l'être, et pour ceux qui accueillent, et qu'ils accueillent mieux. Et donc, comment on dit nom, prénom, date de naissance, quelle terrifiante complexité. Quand on est malien, quand on parle soninké, quand on vient d'Irak, etc. Donc réfléchissons à tout ça et mettons ça comme problème. Au fond, cette idée-là m'est venue du dictionnaire des intraduisibles, qui est peut-être la chose la plus violente et la plus neuve que j'ai essayé de faire, et aussi la plus collective, puisqu'on était 150 à travailler là-dessus. C'est un dictionnaire des intraduisibles pour réfléchir à la différence des langues et à l'impact, non pas de l'intraduisible, puisque ça n'existe pas, on n'arrête pas de traduire, mais à ce qu'on a du mal, à ce qui vous arrête. Hein. Pourquoi quand on vous dit bonjour, quand on dit bonjour, on souhaite une bonne journée, mais on ne dit pas « la paix soit avec toi », comme « salam » ou « shalom ». Et on ne dit pas non plus, comme disaient les Grecs, « kairé », »,« jouis », »,« réjouis-toi ». On ne dit pas « valet », comme disaient les Latins, pour dire « porte-toi bien ». Vous voyez bien que le monde souffre différemment. Donc, voyons comment ça se passe entre les langues, comment ça se passe entre les visions du monde, et comment ça s'articule avec la traduction, en stationnant un peu entre et avec, et en s'arrêtant aux difficultés. Bon, ça c'est pour moi quelque chose que j'ai vraiment appris et construit. Et ce qui est peut-être mon seul véritable apport à la, j'ose pas dire philosophie, pensée, je sais pas comment le dire, pratique contemporaine. C'est arrêtons-nous là, voyons. Et donc avec les Maisons de la Sagesse traduire, ben on s'arrête dès les questionnaires d'identité, et puis ensuite on continue, et on réfléchit à comment fabriquer une nouvelle interconnexion, alors on l'a appelée banque culturelle, à la manière de ce qui s'est fait au Mali par exemple, en Afrique, donc c'est, pour une fois c'est un truc sud-nord. C'est un très grand projet qui n'a pas encore vu le jour, nos Maisons de la Sagesse n'ont ni porte ni fenêtre, ce sont des dispositifs. Et le deuxième dispositif, c'est celui des banques culturelles. Et j'ai envie d'en parler parce que c'est en train de sortir de terre pour de bon, peut-être dans deux endroits privilégiés ou trois, Aubervilliers, aussi le campus Condorcet, puisqu'il se trouve que je préside le conseil scientifique du campus Condorcet, j'y suis très impliquée. Aubervilliers, Marseille, puisque j'y fais des expositions et je travaille avec les classes d'accueil, par exemple. Et puis, peut-être Clermont-Ferrand. Et donc, ces trois points d'implantation, ce sont des lieux où nous essayons de voir comment faire en sorte que puisse avoir une valeur, et une valeur, vous allez voir, au sens aussi financier du terme, une valeur, un objet avec son récit. Quelqu'un apporte un objet avec son récit, il reçoit un crédit, un microcrédit, ou peut-être un nanocrédit, tellement c'est petit, et il commence à s'insérer dans notre société comme ça. Et en montrant, en exposant ces objets récits, objets et récits, avec un tiret, lié à un crédit et lié à un projet, eh bien, on commence une insertion d'un nouveau type, si vous voulez. Une insertion qui est à la fois la vision de notre société à un moment T, à un endroit X et à un moment T, et une entre-implication entre les gens d'un tout à fait nouveau type, avec une nouvelle réflexion sur la valeur que par exemple le crédit municipal pourrait commencer à entamer avec nous, vous voyez. Donc là, on est pour de bon sur du dur faisable. Et du dur faisable qui bouge les choses et qui est lié à... Alors, non pas interculturalité, non pas multiculturalité, non pas pluriculturalité, mais tout ça, je m'en fiche du pluri, de l'inter, du multi, et je m'en fiche même du culti. Je veux dire simplement, c'est lié à une nouvelle ouverture de possible pour des cas. Et ces cas font organisation nouvelle de la société. Voilà.
Voilà un projet qui nous parle à tous. Barbara Cassin, je vous aurais bien gardé un bon mois avec moi, mais il faut rendre l'antenne. Donc je rappelle que pour tous ceux qui veulent poursuivre la conversation avec vous, Le bonheur, sa dent douce à la mort, autobiographie philosophique, vient de paraître chez Fayard. Nous avons commencé l'émission avec notre cher Jean-Pierre Vernant. Vous avez beaucoup parlé d'Hannah Arendt. On va le glisser dans le générique de fin, juste pour nous réchauffer le cœur. Merci Barbara Cassin.
Merci, au revoir.
J'espère que je ne vous choquerai pas si je vous dis que je ne suis pas du tout sûre d'être une libérale. Je n'ai vraiment aucun credo en la matière. Je ne professe pas de philosophie politique que je pourrais résumer par un terme en isme.
Moi, je me sers où je peux. Et je prends ce que je peux. Je pense que l'un des grands avantages.
L'un des grands avantages de notre temps, c'est ce qu'a dit René Char.
Vous savez, René Char, c'est notre héritage n'est précédé par aucun testament. This means we are entirely free.
Cela veut dire que nous sommes entièrement libres d'utiliser où que nous le voulions les expériences et les pensées du passé. Elle ne repose que sur la conviction que chaque être humain, en tant qu'être pensant, peut réfléchir aussi bien que moi et peut former son propre jugement s'il le veut. Ce que je ne sais pas, c'est comment faire naître ce désir en lui.
The only thing which can help us, I think, is really to réfléchir. To think always means to think.
Réfléchir. Cela signifie de toujours penser de manière critique. Et penser de manière critique, cela signifie que chaque pensée sape ce qu'il y a en fait de règles rigides et de convictions générales. Tout ce qui se passe lorsqu'on pense est soumis à un examen critique. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de pensée dangereuse pour la simple raison que le fait de penser est en lui-même une entreprise très dangereuse.
Et ne pas réfléchir, c'est plus dangereux encore.